Il est 8h09, voilà, nous accueillons Lucie dans notre studio. on va te laisser te présenter déjà tranquillement.
Ok, donc je m'appelle Lucie et je suis membre de la Legal Team Collective de Bruxelles. Je suis également avocate. Tu veux que je présente déjà la Legal Team peut-être ?
Oui, tu peux en dire vraiment tous les mots que tu veux.
Ok, donc la Legal Team Collective, c'est un collectif militant bruxellois qui est composé de juristes, d'avocats, d'avocates et plus généralement de toutes personnes qui sont intéressées par la lutte contre la répression, la lutte contre les violences policières et la lutte pour le droit des activistes. Et donc notre rôle qu'on s'est donné, c'est de défendre les droits des activistes à toutes les étapes que peuvent prendre une action militante ou une manifestation. Et donc on est présente en amont, c'est-à-dire qu'on répond aux questions des activistes s'il y a des questions qui se posent dans l'organisation, donc des questions légales évidemment, parce que c'est le droit qu'on a choisi comme arme au sein de la Legal Team Collective. Et donc on répond aux questions qui se posent de droit, de risque, si on est dans des actions de type désobéissance civile, donc pour savoir à quels risques légaux les personnes s'exposent en faisant leurs actions. Et puis, pendant l'action ou la manifestation, on peut être présente sur place en tant que ce qu'on appelle observateur ou observatrice légaux. C'est-à-dire qu'on vient assister à l'action ou à la manif et on observe les interactions entre les forces de l'ordre et les activistes et on les documente. Donc soit en prenant des vidéos, soit en prenant des notes. Et l'idée, c'est que ce qu'on observe puisse servir, s'il y a des violences policières ou s'il y a de la répression, puisse servir pour la défense légale des personnes qui ont été interpellées ou arrêtées, ou pour la défense des personnes qui ont été violentées par les forces de l'ordre, pour qu'elles puissent avoir des preuves de ce qui s'est passé. Et puis alors, après les actions et les manifs, on est aussi à disposition des activistes, s'il y a des poursuites. Alors, il y a des avocats et des avocates dans le collectif, mais on n'agit pas en tant qu'avocate quand on agit comme Legal Team. On va rediriger vers des avocates alliées lorsqu'il y a besoin d'un soutien plus conséquent. Mais quand il n'y a pas besoin d'avocats, nous, on est là pour répondre aux questions, pour rediriger. Par exemple, quand les gens ont des sanctions administratives communales, il n'y a pas besoin d'avoir un avocat pour se défendre. On peut se défendre soi-même en rédigeant une contestation. Et nous, on est là pour accompagner les gens dans ces petites défenses légales qui sont à portée de tout le monde.
Vas-y, Fred.
D'accord,
je croyais, pardon. La Legal Team, ça existe depuis quand ici à Bruxelles ?
Franchement, je ne saurais pas te dire parce que il y a eu plusieurs générations, je dirais. Donc, ça existe depuis plusieurs années, je pense, depuis bien 10 ans. Et moi, j'y suis évidemment pas depuis 10 ans. Moi, je suis là depuis 2 ans et demi. Je pense pouvoir dire sans me tromper qu'il y a eu plusieurs, donc vraiment des vagues, quoi. Et donc, depuis 3 ans, 4 ans peut-être, il y a vraiment eu un regain d'énergie au sein de la Legal Team à Bruxelles, mais avant ça, il y avait vraiment une autre génération de militants et militantes au sein de la Legal Team.
Et la Legal Team, donc tu as expliqué comment elle intervenait. Quand on veut aller en manif, qu'on est activiste, qu'on veut faire une action ou n'importe comment, comment on vient vers vous en fait de base?
Le moyen privilégié, c'est par mail. Donc, on a un mail qui est contact@legalteamcollective.org. Et simplement, on nous envoie un mail. C'est un mail sécurisé, donc il n'y a pas de souci. Et on nous explique les besoins que les organisateurs, organisatrices ou que le collectif ou que la personne identifie. Et alors, nous, on va répondre si on est en capacité d'aider ou pas. Il faut savoir qu'on a aussi des énergies assez limitées. On n'est pas beaucoup. Et donc, voilà, parfois, on va devoir dire... on peut former des gens de votre collectif à l'observation légale, mais nous-mêmes, on ne va pas pouvoir être assez pour venir, sur place à votre action. Mais d'ailleurs, on aime bien aussi faire ça, parce que l'idée, c'est que finalement, c'est que tout le monde soit capable de faire ce que nous, on sait faire. L'idée, c'est de pouvoir former les activistes, que tout le monde acquiert des bons réflexes en termes de défense légale. Donc, on va essayer aussi de diffuser les connaissances qu'on a.
Cette partie, ça s'acquiert facilement, justement. Enfin, vous pouvez facilement expliquer aux gens comment assurer le minimum requis, le minimum utile d'observation des gaines
Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Ça nécessite juste des formations, mais c'est pas, on n'est pas non plus dans quelque chose d'extrêmement pointu. Il y a des bons réflexes à avoir, et simplement, à un moment donné, il s'agit de connaître, donc ça c'est de la connaissance pure, c'est connaître les droits face à la police, pour savoir ce qu'on peut revendiquer, ce qui n'est pas normal et ce qui malheureusement l'est, parce qu'il y a des choses aussi dont on pense que mais ça ils peuvent pas nous faire, et en fait nous on va dire ben malheureusement si, en fait aujourd'hui en Belgique ça quand on est arrêté c'est possible, voilà, et c'est mais ça on peut tout à fait former les gens à ça sans problème, et d'ailleurs on le fait, et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais donc une des choses pour lesquelles on fait beaucoup appel à nous, c'est pour ce qu'on appelle les briefings légaux. Donc on fait pas que de l'observation légale, on vient aussi avant des actions, c'est plus spécifiquement pour des actions que pour des manifs, c'est plutôt quand on est à la frontière entre le légal et l'illégal, on va venir avant l'action pour expliquer aux gens justement quels sont leurs droits, s'ils se font arrêter, s'ils se font interpeller, quels sont les bons réflexes à avoir, et je pense qu'il y a pas mal d'activistes de longue durée, je dirais, qui en fait connaissent maintenant ces droits parce qu'ils ont assisté à plusieurs briefings et donc ils peuvent aussi transmettre. Le risque parfois, c'est qu'en effet, les gens retiennent partiellement, et donc parfois on voit qu'il y a des fausses infos qui circulent, et nous on est là aussi pour remettre un peu remettre un cadre autour de tout ça et rappeler ce qui est vrai et ce qui est de l'ordre de la légende urbaine, je dirais.
Oui, puis des trucs qui évoluent avec le temps aussi, si tu milites depuis 10 ans, il y a des possibilités que la police a aujourd'hui qu'elle n'avait pas nécessairement il y a 10 ans.
Ouais, tout à fait.
Et puis et aussi en termes de différence entre les pays, on peut recevoir des informations militantes de France et se dire bah tiens c'est pareil ici, c'est pas le cas,
oui tout à fait,
ouais, ce point de vue, ce rappel est toujours utile en début d'événement,
c'est ça.
Et alors, dernièrement, la Legal Team a reçu une sanction administrative.
Oui, alors, en fait, l'année dernière, le 20 avril 2020, on avait fait appel à nous, c'est-à-dire des organisateurs, organisatrices d'une manifestation et également la Ligue des droits humains, pour venir observer une manifestation qui était organisée par et pour des sans-papiers. Parce qu'à l'époque, donc c'était le début du confinement, ça avait été super dur pour toutes les personnes en situation précaire, et notamment pour les sans-papiers. Et Iliel avait organisé cette manifestation devant la Tour des Finances pour attirer l'attention sur leur situation, pour appeler à une régularisation, particulièrement en période de crise sanitaire. Donc ça, c'était vraiment une manif éclair. Et on avait fait l'appel à nous, parce que particulièrement, quand les personnes qui manifestent sont des personnes en situation de séjour illégal, c'est plus compliqué si elles se font interpeller par la police et elles s'exposent à plus de risques. Et en plus, à ce moment-là, les rassemblements étaient interdits. Donc, il y avait tout ça qui faisait que c'était vraiment important, non seulement d'avoir des alliés au sein de la manifestation, mais aussi d'avoir des alliés légaux, je dirais. Et donc, on était venus sur place avec plusieurs membres de la Legal Team. Et il y avait eu... Donc, la manif s'était bien passée. Et il y avait eu une altercation entre... Donc, les forces de l'ordre étaient arrivées. Et puis, il y avait eu une altercation avec un militant. Et il s'était fait arrêter. Et donc il était détenu, il était arrêté dans une camionnette de police, et la manifestation s'est dispersée. Donc il n'y a pas eu d'interpellation sur le moment, les gens ont dû simplement partir, et nous avec la Legal Team on est restés quelques-unes un peu à distance pour justement parce qu'il y avait cette personne qui était arrêtée et qu'on voulait voir ce qui se passait, en fait. Est-ce qu'elle allait être envoyée dans un commissariat? Est-ce qu'il y avait besoin d'assurer une veille légale parce que cette personne restait arrêtée? Ou est-ce que simplement ils allaient la laisser partir de cette camionnette? Donc on attendait, en essayant d'aller un peu aux nouvelles. Et puis finalement, il y a des policiers qui sont venus nous trouver, qui ont dit « Bon, maintenant, on vous voit, ça fait un quart d'heure qu'on vous a demandé de partir, vous êtes toujours là, on prend vos identités et on vous met une... » Enfin, non, eux ne décident pas, mais donc ils nous ont dit « Vous aurez probablement une sanction. » Et sur le moment, déjà, on avait essayé, on avait expliqué « Voilà, on est des membres de la Legal Team, on est resté parce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté. Donc on a essayé d'avoir des informations, ça n'a pas fonctionné. » Et on a expliqué quel était notre rôle et pourquoi, à notre sens, il n'y avait pas lieu de nous sanctionner. Mais les policiers ne sont pas du tout familiers avec le fonctionnement de la Legal Team. Et d'ailleurs, de toute façon, et ça, on y reviendra, mais donc de toute façon, on n'a aucune protection légale pour l'instant et on n'a pas de statut reconnu. Et donc, bon, ils s'en sont complètement foutus, évidemment, et ils ont pris notre identité. Et puis, quelques mois plus tard, on a reçu, effectivement, une sanction administrative communale, qui est donc une amende de 250 € infligée par la ville de Bruxelles.
Et quel en était le motif ?
C'était non-respect de l'arrêté ministériel Covid, donc c'était, si je me souviens bien, ouais, rassemblement illégal, et c'était ça essentiellement, rassemblement illégal, donc parce que les rassemblements étaient interdits selon cet arrêté ministériel-là. Mais à nouveau, la motivation, en vérité, elle n'était pas claire, et c'est une des choses pour laquelle les sacs Covid était contestable, parce que c'était des motivations complètement stéréotypées qui ne collaient pas vraiment avec ce qui s'était passé. Et donc, dans la sanction, il était noté la personne interpellée marche entre les participants à la manif, elle participe activement à la manifestation et ne respecte pas les distances sanitaires, un truc comme ça. Voilà.
C'est un truc qu'on retrouve pas mal là dans avec les sacs en fait en période de Covid.
Tu veux dire les motivations stéréotypées? Mais oui, en fait, mais c'est alors, et là le problème est bien plus large, mais je pense que le gros problème avec ces sacs Covid, ça a été que vraiment on parle d'infraction.
Les sacs, pardon, pour nos auditeurs auditrices, oui. Les sanctions administratives communales.
Oui, c'est ça. Et donc, pour rappel, les sacs ont pu être infligés en masse pour non-respect des règles sanitaires depuis le printemps passé, et elles ont été contestées aussi, également en justice plusieurs fois avec succès ou pas, ça dépendait. Mais donc, le problème, c'était que vraiment ici, on parle de d'une grande liberté d'interprétation de la police. La police a souvent une grande liberté d'interprétation, mais ici c'est vraiment déambuler dans la rue et décider que tel ou tel groupe, ben on va dire qu'ils sont en rassemblement illégal. En fait, tout était complètement flou et ben c'est la parole des gens contre celle de la police, vu que généralement il y a aucun élément tangible. C'est vraiment de l'ordre du constat. Et donc nous, en l'occurrence, on avait la chance que il y avait une vidéo de toute la manifestation, et donc on a pu, on avait des éléments pour montrer que, ben, en fait, non, les gens qui ont été interpellés, on les voit sur cette vidéo. On ne peut pas dire qu'ils déambulent activement entre les manifestants, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. La plupart des gens qui reçoivent une sac Covid, ils sont juste dehors. En tout cas, à l'époque, hein, c'était plus le cas au printemps dernier, mais donc, ils étaient juste en train de marcher avec un membre de leur famille, et il y a pas moyen de le prouver, donc c'était vraiment compliqué.
Ouais. C'est particulier comme terme, déambuler activement.
Oui, oui.
Et donc, cette sac, vous l'avez contestée.
Mm-hmm. Donc d'abord, les sacs, on peut toujours les contester en écrivant à ce qu'on appelle le fonctionnaire sanctionnateur. Donc c'est un fonctionnaire de la commune en question qui s'occupe de toutes les sanctions communales. Et on peut lui écrire en faisant valoir nos moyens de défense, comme on dit, donc en expliquant la version des choses et pourquoi il n'y a pas lieu de nous sanctionner. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais ça n'a pas fonctionné, donc ils ont confirmé la sac. Il faut savoir que contester les sacs, faut vraiment, donc je dis à toutes les personnes qui nous écoutent, faut vraiment pas hésiter si ça vous arrive, parce que ben les communes sont parfois des interlocuteurs privilégiés, et il y a vraiment moyen, quand vous avez vraiment des arguments, d'arriver à faire sauter une sac de cette manière-là, parce que bah ouais, on a déjà vu des communes qui sont des fonctionnaires sanctionnateurs qui sont vraiment à l'écoute de la situation de la personne et qui vont peut-être proposer des sanctions alternatives qui sont plus adaptées ou plus intéressantes si on n'a pas les moyens de payer effectivement une sac. Donc faut vraiment pas hésiter. Bon, en l'occurrence pour nous ça n'a pas fonctionné. Et du coup, on a décidé avec la Legal Team de pas en rester là et de contester cette amende en justice, parce que quand la commune confirme la SAC malgré la contestation, le recours suivant, c'est un recours devant le tribunal de police. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a introduit un recours. Alors, dans notre recours, il y avait plusieurs arguments invoqués. Il y avait des arguments d'ordre légaux, donc sur la légalité de la sanction administrative communale en tant que telle, sur les bases légales qui étaient invoquées, etc. C'est pas le plus intéressant aujourd'hui, parce que c'est pas vraiment là-dessus qu'on avait envie de gagner, en fait. l'idée pour laquelle on a fait ce recours, c'est parce que on y a vu l'occasion de faire valoir en justice ce que c'était une legal team et pourquoi c'était important de nous reconnaître un statut à part dans les actions et les manifestations et pourquoi on n'aurait pas dû être sanctionné alors qu'on était présent dans le cadre d'une manifestation qu'on dit illégale. Et on a pu le faire parce que, ben en fait, dans la legal team, la legal team c'est une équipe composée de personnes qui sont voilà plutôt aisées, enfin aisées je dirais pas, mais on n'a pas de problème d'argent, on n'est pas des personnes dans des situations précaires. Il y a plusieurs personnes qui sont avocates, etc. Et donc on a le temps et on a les moyens financiers pour se permettre de faire ce type d'action. On n'avait pas grand chose à perdre. C'est ça que je veux dire. Tout le monde peut pas se permettre ça, parce que quand on se lance dans un recours en justice, si on perd, potentiellement, il y a une indemnité de procédure qui est due, donc c'est-à-dire qu'il faut payer des indemnités à la partie adverse pour avoir fait un recours qui n'était pas fondé. Donc, il y a des enjeux, je le dis d'emblée, parce que je suis pas en train de dire que tout le monde doit passer par cette case-là.
Non, c'est important, ouais. Oui, tout à fait.
Il y a tout un formalisme aussi de papiers administratifs, comme ça, des gens qui ont pas la formation là, comme ça sont tout à fait incapables de suivre c'est très compliqué de suivre toutes les procédures pour rendre les bons papiers dans les bons temps
et
contacter les bonnes personnes, tout ça quoi, enfin donc c'est aussi toute une partie financière, mais toute une partie de connaissances aussi que vous pouvez utiliser.
Oui, tout à fait. Après, donc, on a fait appel à des avocats pour nous défendre parce que c'était plus intéressant d'être défendu par des avocats que nous-mêmes. Ça a souvent plus de poids.
Ça a une autre portée, oui, c'est sûr.
Tout à fait. Mais donc, on a fait ce recours et donc, j'étais en train de dire que l'argument principal, c'était d'essayer d'expliquer en quoi cette position. Donc, ce qu'on veut, c'est que il nous soit reconnu un statut. On compare un peu à celui des journalistes, quoi. Donc, on puisse venir en manif pour exercer notre fonction, qui est celle, je dirais, de garde-fou contre les violences policières, contre les abus policiers et pour le droit des manifestants. Et on aimerait bien à terme qu'il y ait un espèce de statut qui soit reconnu et que les membres des legal team soient reconnaissables par un signe distinctif, mais qu'ils puissent pas être interpellés. Alors évidemment que ça viendra en échange de garanties de notre part, parce que voilà, on peut pas juste dire laissez-nous être là, mais on peut faire ce qu'on veut. Donc bien sûr que ça impliquerait, et ça c'est, tout ça est encore à créer, à définir, mais ça impliquerait pas une neutralité, mais par contre une forme de retrait dans la manifestation, c'est-à-dire qu'on va pas venir s'interposer entre les policiers et les manifestants. On sait que ce sera des compromis comme ceux-là qu'on va devoir faire pour pouvoir avoir un statut, et on s'inspire pour ça notamment d'exemples qu'on a pu observer dans d'autres pays. Donc il y en a certaines d'entre nous qui ont eu l'occasion de travailler aux États-Unis, où les legal teams sont vraiment une institution. Alors elles sont pas reconnues par toutes les forces de l'ordre, mais de plus en plus elles sont de plus en plus connues, et il y a un statut qui est protégé par une association des barreaux. Alors moi-même je m'y connais pas très bien, mais je connais pas les noms, mais elles ont un signe distinctif qui est une casquette, et elles ont plusieurs avantages, donc notamment que leurs notes et leurs vidéos et leurs photos sont protégées, donc elles peuvent pas être saisies. Alors que aujourd'hui en Belgique, mais quand on se fait interpeller, on peut saisir le matériel qu'on a sur nous. Alors il faut invoquer des bonnes raisons, mais malheureusement on sait aujourd'hui que en attendant, les policiers le font.
Et ça, c'est une pratique qui est là, mais qui n'est pas normale en fait.
Ouais, c'est ça.
En soi, et qui ne devrait pas être.
Non, exactement. En fait, quand on est arrêté, les policiers peuvent saisir uniquement les objets, soit qui risque d'être utilisé pour blesser en cellule, donc pour se blesser soi, pour blesser les autres, soit des objets dont on pense qu'ils sont liés à la commission d'une infraction. Mais normalement, avant de saisir, il faut déjà pouvoir expliquer d'où vient le doute. Donc pourquoi est-ce qu'on va saisir ça? Quelle infraction on pense qui a été commise? Mais souvent c'est interprété de manière très très large par les policiers qui vont prendre tous les objets qu'on a sur soi, qui vont essayer en fait d'abuser les personnes interpellées en disant mais on a le droit de regarder dans ton téléphone, alors qu'en fait il faut pouvoir justifier. Mais donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir ces notes et ces vidéos qui sont insaisissables. Ça veut dire que on n'a pas de risque de se faire prendre une vidéo d'un policier qui est en train de frapper une manifestante, par exemple. Et donc, aux États-Unis, ils ont ce statut. Alors, ils sont pas intouchables, donc ils peuvent être poursuivis. Mais il y a quand même déjà une étape de reconnaissance qui est bien plus élevée que ce qu'on a aujourd'hui en Belgique.
Oui, elle est quasi inexistante, en fait, ici.
Elle est complètement inexistante, oui. D'ailleurs... je dirais en un sens c'est normal aussi parce que nos activités sont aussi en train de se développer, mais c'est pour ça que maintenant on milite pour qu'on parle de ce que c'est les legal teams, pour qu'il y en ait plusieurs qui fleurissent en Belgique. Mais oui, aujourd'hui on a absolument aucun statut. Et d'ailleurs, en fait, récemment, donc on a mobilisé pour cette manifestation, pour ce procès en justice, parce que l'audience c'était prévu demain, donc le 4 mai, et donc on avait prévu un rassemblement justement pour qu'on parle de ça, et parce que on pense que plus que jamais cette année a montré à quel point c'était important d'avoir des gens qui sont vigilants par rapport au respect des droits des manifestants. Je vais pas retracer tout l'historique de 2020, mais ça a été vraiment une année tragique et horrible par rapport à toutes les arrestations de masse qu'il y a eu, et particulièrement des manifestations contre les violences policières, contre les justices de classe. Enfin, il y a encore eu récemment la manif du 24 janvier contre la justice de classe pour Ibrahima, etc., et où il y a eu des arrestations de masse raciste, où il y a eu des violences en cellule. Enfin, c'est vraiment c'est flagrant, en fait, ce qui s'est passé toute cette année, qu'il y a de plus en plus d'abus dans les arrestations suite à des manifestations. En tout cas, c'est de plus en plus visible, je dirais. Et donc on voulait faire une manifestation pour attirer l'attention sur l'importance de notre rôle et également en soutien à toutes les victimes de violences policières de ces derniers mois. Et puis, en fait, suite à ça, mon avocate a reçu un appel de l'avocat de la partie adverse qui lui annonçait que la ville de Bruxelles allait retirer la décision de SAC. Et donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle. On est contente parce que ça nous évite de passer par la case procès et d'être à la merci d'un juge qui ne serait pas forcément en notre faveur. Mais donc, quand à la lecture de la décision de retrait qu'on a reçue tout récemment, en fait, on voit que ce qui a joué, c'est pas la reconnaissance d'un statut de la legal team en tant que tel, c'est vraiment plutôt le fait que moi, qui était la personne concernée, je suis avocate et que j'ai pu établir que j'étais présente en ma qualité d'avocate. Donc j'ai eu le soutien du bâtonnier, c'est-à-dire du chef des avocats qui a confirmé que j'étais bien là dans l'exercice de mes fonctions. Or, dans l'arrêté ministériel Covid, il y avait une liste des fonctions essentielles pour lesquelles les déplacements étaient autorisés et les avocats en font partie. Et donc, en fait, c'est plus là-dessus que ça s'est joué et les legal teams ne sont même pas mentionnés dans la décision. Donc.
Oui, et comme tu dis, c'est que dans la legal team, il n'y a pas que des avocats.
Non,
et
pas
donc,
du tout.
Là, dans ton cas, voilà, ça a joué sur ça. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre qui n'avait pas cette fonction-là, on avait encore autre chose qui se passait, quoi.
Tout à fait, ouais, c'est ça. Et donc c'est une petite victoire, mais en fait, c'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on maintient la mobilisation demain matin, parce que on veut continuer à militer pour que on veut saisir cette occasion-là pour continuer à parler de notre rôle et de l'importance de le reconnaître. Et on est en contact avec Philippe Close pour saisir cette occasion-ci pour le rencontrer et en discuter, justement, parce que apparemment il a quand même été interpellé par ce concept de legal team. Donc on verra bien où ça nous mène. C'est un bourgmestre d'une commune de Bruxelles, mais voilà, c'est peut-être l'occasion d'amorcer la conversation et en tout cas de voir un peu où se situent les autorités communales par rapport à ça. Mais voilà, on est. C'est clair que c'est pas c'est une victoire, mais c'est pas une victoire dans le sens où ça nous intéresse pas trop de gagner, parce qu'il y a des membres parmi nous qui sont avocats. Enfin, à nouveau, c'est on trouve pas ça juste, en fait. Bon, après, voilà, si on peut utiliser le statut de certains et certaines pour les mettre au service de du rôle de la Legal Team, bah, tant mieux, mais c'est pas ça l'objectif.
Non, c'est pas l'enjeu. Et non. Du coup, là, ça vous fait peut-être aussi une ouverture à rencontrer tous les bourgmestres de la région.
Oui, on va bien s'amuser.
Ouais, ça va être sympa.
Non, non, mais donc du coup, le rassemblement reste prévu demain matin devant le palais de justice, comme si vous aviez un procès derrière.
Mais... Exactement. Et d'ailleurs, bon, on doit quand même aller devant le juge pour acter la décision de retrait, pour dire qu'on marque notre accord. Donc
là, vous pourriez assister pour. Oh, on veut la voir quand même. On veut la discuter quand même.
On pourrait, mais bon. Et donc c'est demain, maintenant le nom m'échappe, c'est pas devant le palais de justice, c'est sur une place juste à côté, mais je vous le dirai en fin d'émission, parce que je me rappelle plus du nom, et c'est à 8h30, de 8h30 à 9h30, mais donc juste à côté du palais de justice.
Et c'est donc, aussi une occasion d'être soutenu par les activistes, en fait, que vous soutenez aussi, et d'avoir vraiment, comme ça, une dynamique existante.
Oui, exactement, en fait, ça fait maintenant plusieurs années qu'on est bien actifs sur Bruxelles et que les gens nous contactent de plus en plus, en fait, et cette année particulièrement, parce qu'on a été présente à des manifestations qui ont touché plus que un peu le réseau activiste de base de Bruxelles. Donc cette année, il y a vraiment eu des manifestations où il y a eu une belle convergence des luttes, où il y a plusieurs réseaux et plusieurs milieux qui se sont mélangés. Et du coup, nous, on a pu sortir un peu aussi de notre milieu qui est quand même... Enfin voilà, on est issu d'un milieu d'activistes bourgeois et blancs, je dirais. Et donc, on a pu se faire connaître auprès d'un autre public, parce que nous, l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir être à disposition de toutes les personnes qui luttent pour un monde plus juste, plus égalitaire, et antiraciste, antisexiste, etc. Et donc c'était chouette de voir que via notre page Facebook, on a eu des contacts vraiment multiples et qui sortaient du réseau qu'on avait habituellement. Et ça a été vraiment fort pendant l'année 2020. Donc à nouveau, on revient à ce que je disais, il y a vraiment eu il y a quelque chose qui s'est passé cette année, malheureusement, je dirais, parce qu'il y a eu plus de répression visible qui a peut-être touché des milieux justement, c'est une répression qui est peut-être sortie des quartiers, qui s'est étendue à des bourgeois blancs, et donc qui a eu plus de visibilité que ce qu'elle avait auparavant, parce que les gens qui étaient concernés avaient peut-être plus la possibilité de se questionner, de se révolter par rapport à, enfin, de se révolter publiquement, je dirais, par rapport à ce qui leur arrivait.
Ils avaient moins de moyens de défense, de connaissances, et donc là, c'était vraiment aussi l'occasion d'entrer en action autrement.
C'est ça. Mmh.
Il est 8h37, je sais que tu dois partir bientôt, voilà, donc je prépare un peu ce moment-là.
Merci.
Tout doucement. Donc on rappelle que c'est demain à 8h30 qu'il y a ce rassemblement qui se fait. On rappelle le contact aussi.
Oui, alors c'est contact@legalteamcollective, donc avec VE à la fin, .org.
Et donc une page Facebook aussi. Qui doit s'appeler Legal Team
Collective également, okay. Ouais, sur Facebook.
Et un nom de place qui va arriver incessamment, c'est ça. Pour le rassemblement demain matin à 8h30.
Voilà, c'est place Jean Jacobs à 8h30.
Ah ouais, je vois pas.
C'est vraiment juste à côté du palais de justice. Okay. Ouais.
Je suis pas très forte en nom de place. Bon, ça... il suffit de regarder sur une carte. C'est très bien. On mettra aussi, nous... oui, je t'en prie.
Non, vas-y.
C'est juste pour dire qu'on mettra aussi sur le site de Radio Panique, avec le podcast, les infos.
Ah, super, ouais, merci.
Ça sera bien.
Mais donc, je voulais simplement terminer en disant que j'invite toutes les personnes de Bruxelles et d'ailleurs qui ont besoin de soutien légal dans leurs actions ou leurs manifestations à ne pas hésiter à nous contacter. On est là pour ça et ça nous fait plaisir. Et à toutes les personnes que ça intéresserait de nous rejoindre, on est en demande constante de nouvelles énergies, donc vraiment n'hésitez pas. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances préalables en droit pour faire partie de la Legal Team, on est aussi dans un processus de formation continue ensemble. Et puis les personnes qui ont les connaissances théoriques légales sont là pour les partager avec les autres. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et évidemment, on espère vous voir nombreux et nombreuses demain matin pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer à être là avec vous quand il y a des problèmes légaux en manifestation.
Merci beaucoup, Lucie.
Mais merci à vous pour l'invitation et bonne journée.
Mais ouais, tout était très clair en tout cas.
Tant mieux.
Parfait.